15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au pénis, au sexe masculin. Le petit, le gros, le tordu, avec notre invité, le professeur en urologie François Desgrandchamps, on fera le point sur toutes les questions que se posent parfois les hommes sur leur intimité, et je suis sûre que ça vous intéressera vous aussi, hein, les femmes. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des saignements de nez. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des pellicules, pourquoi en a-t-on et surtout comment s'en débarrasser. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de virginité et de normalité. Est-ce que c'est réellement un problème de n'avoir jamais eu de rapport sexuel à 25 ou 30 ans? Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Simon, 25 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed, je me demandais, je me pèse tous les jours et je me demandais si c'était psychologiquement ok pour moi et si je n'allais pas devenir fou à force. Merci.
Bon, déjà Simon, il se pose la question quand même. Jimmy, est-ce que être maniaque de la balance tous les jours, est-ce que c'est utile finalement, même quand on a quelques kilos en trop?
Non, ça sert strictement à rien de se peser tous les jours, même lorsqu'on veut perdre un peu de poids. Alors, je ne parle pas pour vous, Mélanie.
Non, mais moi, j'en ai pas, évidemment.
Non, mais bien, on passera à autre chose. Mais globalement, ce que les nutritionnistes conseillent, c'est de se peser une fois par semaine, grand maximum. Au-delà, ça commence à être un peu pathologique.
Effectivement, on risque de devenir un petit peu fou. Alors, pourquoi ça ne sert à rien, finalement, de se peser tous les jours? Au moins, je ne sais pas, en se pesant tous les jours, ça permet quand même de redresser la barre. Je veux dire, quand on voit qu'il y a un petit écart et que ça dérape sur la balance, non?
Non, c'est artificiel parce que d'un jour à l'autre, il y a une fluctuation qui peut être liée à ce que vous avez mangé. Et surtout bu la veille, et donc ce n'est pas du tout le reflet de la masse grasse. Or, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment évolue votre masse grasse. Donc, si la veille, vous avez eu un repas très riche en eau, en fruits, et ben le lendemain, votre poids peut un petit peu augmenter. Ou de la même façon, si vous avez fait beaucoup de sport et que le lendemain vous vous pesez, bah, peut-être que vous aurez un peu maigri. Mais tout ça est artificiel, donc tous les jours, ça ne sert strictement à rien du tout.
Ça risque même d'être peut-être contre-productif, en fait. Hein. Parce que j'imagine qu'en se pesant tous les jours, on devient complètement fou, peut-être. Et effectivement, on peut développer des comportements compulsifs. Et alors ça, en termes de nutrition, c'est jamais bon. Ça fait comme une addiction hein, finalement. On veut maigrir. Mais bon, alors admettons... On se pèse, donc, comme vous l'avez dit, une fois par semaine, dans l'idéal. On se pèse quand? Plutôt le matin, plutôt le soir?
Alors, c'est comme on veut. On choisit un moment et on prend toujours le même moment. Ça peut être le lundi matin, mais attention, parfois le week-end, on commet quelques petits excès.
Ah oui, non, pas le lundi, c'est
ça
vrai.
Peut être un peu difficile. Vous pouvez faire ça le vendredi matin ou le vendredi
avant
soir.
Avant les excès du week-end,
avant les excès,
justement.
Comme ça, on se donne bonne conscience et on peut y aller. Mais globalement, retenez une journée et un moment clé. Et à ce moment-là, vous le faites régulièrement et ça suffit largement.
Alors, il y a un petit conseil pour les accros du pèse-personne. Lui monter tous les jours sur la balance. Vous pouvez surveiller votre poids aussi avec un petit jean test, par exemple, le petit pantalon qui vous va bien, là, juste après avoir fini le sport. À un moment donné, quand il commence à serrer, c'est peut-être le moment, effectivement, d'aller se peser et de vérifier. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Camille, 32 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me permettais de vous appeler parce que je pense que mon enfant a les premiers symptômes de la varicelle. Et je voudrais savoir s'il est possible de lui faire prendre des anti-inflammatoires avant d'aller chez le médecin ou si vous avez d'autres astuces pour l'aider. Merci beaucoup, au revoir.
Jimmy, je vous vois frétiller. Là, vous n'avez pas l'air content. Non, les anti-inflammatoires et la varicelle, ça ne vous plaît pas trop.
Non,
là.
Non, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. C'est strictement contre-indiqué. Donc, jamais d'anti-inflammatoires. Déjà, quand on ne sait pas. Alors, encore moins sur une varicelle.
Parce qu'elle dit les signes de varicelle. Voilà. Peut-être que c'est autre chose.
Donc,
en plus,
l'anti-inflammatoire, mais ça peut être aussi de l'aspirine, du kétoprofène, de l'ibuprofène.
Tout ça.
Donc, quand on ne sait pas, on n'utilise pas. Ça peut avoir vraiment des conséquences dramatiques parce que ça peut favoriser des surinfections bactériennes très sévères qui peuvent conduire jusqu'au décès.
Ah oui, c'est quoi ces surinfections? C'est comme une septicémie, une infection du sang, c'est
exactement.
Ça
exactement. Le moment de la varicelle, c'est un moment où les défenses immunitaires sont un peu dans le creux. À ça, vous rajoutez des petites lésions liées au grattage, vous mettez en plus l'anti-inflammatoire, surinfection cutanée, ça peut aller jusqu'à la cellulite, donc vraiment, c'est une contre-indication absolue.
La cellulite,
absolue.
Ça n'a rien à voir avec la graisse, on est d'accord?
Non, la cellulite, c'est l'infection très sévère de la peau qui conduit à l'hospitalisation et parfois au décès.
Et on peut donner donc de l'aspirine, vous disiez non, l'aspirine non plus. Hein. Finalement, il reste quoi? Parce que quand on a la varicelle, on peut avoir un peu de fièvre, on peut avoir mal à la tête, enfin l'enfant, on donne que du paracétamol.
Exactement, le paracétamol. Quand on ne sait pas, on donne que du paracétamol adapté à la dose de l'enfant. Et ça permet souvent de faire baisser un peu la température. Globalement, dans une varicelle, il y a peu ou pas de fièvre. Il peut avoir un peu mal à la tête, mais la varicelle, c'est pas très douloureux. Mmh. Donc l'enjeu, il est plutôt de traiter à côté avec d'autres petits moyens qu'on explique juste après.
Alors c'est quoi justement? Parce que ce qui gêne le plus les enfants, c'est cette envie de se gratter. Oui,
exactement.
C'est horrible.
Alors
c'est
déjà, quelques règles de base, on peut leur donner un petit antihistaminique en fonction de l'âge et du poids.
Contre les allergies.
Contre les allergies, ça évite un peu de se démanger, quoi qu'on sait que c'est pas très efficace. Il faut couper les ongles courts des enfants parce qu'ils vont se gratter et puis ils ont les ongles sales, donc forcément, il peut y avoir de la surinfection. On évite de mettre des crèmes, pas de talc. On fait des douches rapides. On ne laisse pas l'enfant baigner dans le bain pendant plusieurs heures parce qu'à ce moment-là, on peut surinfecter. Et en règle générale, un petit coup de désinfection une fois par jour et ça passe en quelques jours.
Super, donc la varicelle, ce n'est pas très grave. Essayez un petit peu de patience, mais ça passe. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Camille, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour aujourd'hui. Il va nous parler des saignements de nez. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, l'urologue François Desgrandchamps, qui nous dira tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pénis. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur François Desgrandchamps, pour parler du pénis et de toutes les questions que les hommes et les femmes d'ailleurs se posent souvent sur le sexe masculin. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez du saignement de nez. Pourquoi on saigne du nez d'abord ?
C'est tout bête, on a au niveau du nez ce qu'on appelle une tache vasculaire, c'est un endroit où les vaisseaux sont très superficiels. Alors que classiquement le vaisseau est bien enfoui dans la peau, à l'abri de l'agression extérieure, et ben dans le nez finalement, il est quasiment à fleur de peau et donc à peine une petite irritation et on peut se mettre à saigner du nez.
Une irritation, un coup et paf, c'est parti. Alors est-ce que c'est grave quand on saigne du nez finalement ?
Alors classiquement non, c'est très impressionnant. Beaucoup saigner, ça peut être grave lorsqu'on prend des anticoagulants ou finalement lorsqu'on a subi une agression, là ça semble assez évident. Mais en règle générale, il faut chronométrer parce que les minutes paraissent des heures et globalement en quelques minutes avec quelques gestes simples, on peut s'en sortir.
Ah bah alors justement, quels sont ces gestes simples? Comment on réagit si le petit dernier se met à saigner du nez après?
Premièrement, ça paraît contre-intuitif, il faut se moucher. Se moucher le nez pour évacuer les caillots. Pour l'instant, on ne bouge pas. On mouche le nez fort. Une fois qu'on a bien mouché, on a évacué les caillots. À partir de ce moment-là, on pince le nez, la tête en avant, jamais en arrière.
On va tout le monde mettre la tête en arrière.
Parce que si vous faites en arrière, qu'est-ce qui se passe? Le saignement va aller dans l'arrière-gorge, vous allez l'avaler, vous allez vomir. Donc on fait ça pendant au moins 2 minutes.
D'accord.
Donc 2 minutes, ça paraît très très long, mais finalement il faut aussi chronométrer. Et en règle générale, avec ça, ça passe. Si ça ne marche pas, on recommence. Mmh. Et si ça ne marche pas, on peut mettre un petit glaçon sur la langue. Ça entraîne une vasoconstriction des vaisseaux et ça peut limiter le saignement. Donc avec ces règles simples, souvent on ne finit pas à l'hôpital.
Ah bah c'est sympa comme astuce. Ça, je ne connaissais pas le glaçon sur la langue pour arrêter le saignement de nez. Quand est-ce qu'on doit consulter vraiment? Parce que vous dites, bon, en général, ça passe assez vite, mais parfois pas. Alors on consulte quand?
Alors bien sûr, quand c'est très urgent, que ça ne passe pas, que c'est abondant avec ces petites mesures. Mmh. Vos urgences, mais sinon il faut aller voir l'ORL lorsque c'est récurrent. Parce que l'ORL avec sa petite caméra, il peut regarder cette tache vasculaire et puis si jamais il trouve qu'elle est trop importante, il peut la cautériser, ça fait pas mal et puis ça évite de ressaigner du nez, donc ça évite les récidives et finalement tout est réglé. Donc allez voir un ORL si c'est trop fréquent, même chez les enfants.
Très bien, merci beaucoup Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle du pénis avec notre invité, le professeur François Desgrandchamps, chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau.
On était obligé effectivement de commencer par ce petit extrait donc de Pierre Perret. On a compris qu'aujourd'hui donc on fait une spéciale zizi effectivement, mais même si ça paraît être un sujet léger comme ça, professeur Desgrandchamps, on est d'accord, le pénis c'est un vrai sujet de questionnement des hommes et parfois très jeunes. Presque tous les hommes se posent des questions autour de leur organe masculin.
Évidemment, mais les femmes de leur côté, en fait, la question d'un jeune et d'un adolescent, c'est est-ce que je suis normal ? Et c'est une question qu'on peut avoir pendant toute sa vie si on n'a pas accès à des données de comment vivent les autres de façon générale, et plus particulièrement pour son anatomie invisible. On sait les mains, on sait les yeux, on sait les nez, mais on ne sait pas la verge. Et donc l'homme vit dans un certain isolement de savoir s'il est normal ou pas.
Et on est d'accord, c'est souvent la taille, la question principale, la première question que se pose un petit garçon même. Tous les garçons, on va dire, se la posent un jour ou l'autre, cette question, est-ce qu'elle est de taille normale?
Pas les petits, c'est à l'adolescence, c'est lors des premiers rapports sexuels. Est-ce que je suis donc normal ou pas, et par rapport à mes copains.
Donc c'est normal de se poser la question. Vous en voyez beaucoup en consultation qui viennent vous demander est-ce que
oui,
j'ai une taille normale.
Je ne suis pas le seul. Hein. Les urologues font de l'andrologie puisque c'est la spécificité, c'est l'andrologie. Et en fait, les chiffres montrent qu'à peu près 9 hommes sur 10 qui viennent consulter pour une anomalie de sa verge a finalement une verge normale.
Jimmy ?
Et justement, quand on pense qu'on a un micro-pénis, alors bon, oui. Ça peut arriver, donc il faut mesurer et il faut oui. qu'on parle de, à partir de combien de centimètres on parle de micro-pénis ?
En dessous de 8 cm en érection. Mais alors, il faut faire attention à la mesure parce qu'il y a des pénis qui sont cachés et on pourra y revenir pour la
des
première...
Des pénis cachés, alors des c'est pénis, quoi ça, le pénis caché
des pénis cachés par la graisse pubienne.
Ah oui,
d'accord. Vous voyez, donc il faut en fait prendre un double décimètre. Être en érection, c'est le plus facile, sinon il faut tirer sur la verge, c'est à peu près les mêmes tailles, mais être en érection. Et puis, prendre contact avec l'os du pubis et mesurer alors la longueur complète.
Mais, et la taille normale, donc, mais en fait, ce double décimètre, c'est quoi
la taille moyenne normale chez l'homme, toute ethnie confondue, parce que là aussi,
oui, il y a des mythes là-dessus, effectivement.
Il faut vite supprimer toute arrière-pensée éventuellement raciste. La taille moyenne, c'est de 13
cm. 13, donc.
Ça veut dire que 50% des hommes ont une verge un peu plus grande et 50% une verge un peu plus petite.
Ah, 13 cm au
érection.
En érection, oui,
érection.
Rassurer certains.
Et...
Oui. Je vous en rassure. Alors du coup, 13 cm donc, en érection, c'est la moyenne.
Voilà.
Et vous dites, ça varie
mais
à combien
fait,
autour
à 2 cm, 3 cm près, vous avez toute la population du monde.
Oui, donc c'est-à-dire tous les hommes sont entre 12 et 14.
Entre
quoi,
les micro-pénis de moins de 8 et les macro-pénis, genre Rocco Siffredi et les autres, ils font chacun peut-être 5%, même pas 5% de la population. Je crois que les micro-pénis, c'est 3% de la population. Donc en fait, l'immense majorité des hommes s'étalent, si je puis dire, autour de 13 cm, plus ou moins 2.
C'est pas énorme, hein, alors qu'on a des fantasmes.
Ah bah tiens,
non, mais écoute.
C'est pas énorme.
Mais, non, mais c'est vrai, dans l'imaginaire des gens, 13 cm, c'est tout petit. Alors que finalement, c'est
je vous rappelle que le vagin, c'est 8 cm. Hein, donc
donc ça suffit d'avoir 8 cm.
Déjà un peu trop. Je vous le laisse. C'est ça.
À partir de quel âge on considère d'ailleurs que la taille du pénis de l'homme est définitive, on va dire.
Après la puberté, donc autour de 16-17 ans.
Là, vraiment, elle ne grandira plus, quoi, c'est sûr. Ça
sauf si on tire dessus, mais on peut en parler.
Ça s'arrête là, on va en parler dans un instant, justement. On va passer à ces opérations qui peut-être permettent justement d'allonger le pénis, mais seulement dans un instant. Vous restez avec nous, professeur Desgrandchamps.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc rentrer dans le concret. Comment peut-on gagner quelques centimètres pour allonger un peu les pénis vraiment trop petits? Et puis, on parlera aussi des problèmes d'érection. Vous allez voir, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Tu crois qu'il y a un gros bazar?
Un gros quoi?
Tu crois qu'il y a un gros pipi?
Josette, écoute, on parle pas de ces choses-là devant les gens.
Bon, vous aurez reconnu l'extrait du film Le Père Noël est une ordure. Alors nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h hein, pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. Donc à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité François Desgrandchamps. Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors avec vous aujourd'hui, on l'a compris, on parle du pénis, le pénis dans tous ses états. Et donc maintenant, on a parlé de la taille, on va passer à ces techniques qui permettent de l'allonger un peu quand même quand c'est nécessaire. Mais d'abord, vous me disiez en préparant l'émission que avant de penser à une éventuelle opération, il y a quelques conseils qu'il faut donner aux patients qui sont inquiets de la taille.
En fait, le premier conseil, c'est de s'aimer tel qu'on est. C'est-à-dire que plein d'études psychologiques ont montré que quand on trouve que sa verge est trop petite, finalement, la plupart du temps, on ne s'aime pas et on n'aime pas son visage. Mmh. Et donc, dans 90% des cas, la verge est physiquement normale, elle est dans la moyenne, mais l'homme vient parce qu'il a...
autour des 13 cm,
donc. Il a une demande de verge plus longue, mais simplement parce que c'est ce qu'on appelle une dysmorphophobie. On n'aime pas comme on est fait. Et donc, ça ne sert à rien de prendre en charge ces patients d'un point de vue chirurgical, c'est d'un point de vue psychologique qu'il faut les prendre en charge, parce que même s'ils finissent par être opérés, ils s'aimeront toujours pas.
Mais vous avez quelques conseils quand même pour qu'elles paraissent
après,
plus grosses,
après,
plus
oui, grandes. Bien sûr, c'est les illusions d'optique. La première chose à faire, c'est de se raser le pubis. Évidemment, les poils masquent la racine de la verge sur 2 cm, vous vous rasez, elle paraît 2 cm plus grande.
C'est gagné.
La deuxième, c'est de maigrir parce qu'il y a du gras sur le pubis, et si jamais on a trop de gras sur le pubis, c'est éventuellement faire une liposuction par un chirurgien plasticien, de façon à réduire la graisse. Pareil, ça développe encore plus, dégage encore plus la verge. Et c'est après qu'on peut imaginer des techniques chirurgicales possibles.
Donc on rase, on maigrit, là on a gagné 4 cm. Quoi,
on rase, on maigrit, on va voir un psychologue et puis on vit déjà mieux.
Bon, alors quand on opère par contre, vraiment il y a un micro-pénis, on fait quoi?
Alors il n'y a pas vraiment de chirurgie qui allonge la verge en fait, c'est ça la déception. Il y a la chirurgie qui font en sorte que la verge paraît plus longue Il faut savoir que la verge, en fait, est fixée au bassin par des ligaments. Et cette fixation impose une courbure à la verge. Et la courbure diminue donc la longueur utile. En coupant ces ligaments, on
donc
augmente la longueur.
À l'intérieur du pubis, quoi, finalement.
Juste sous le pubis, il y a des ligaments. Et donc, on coupe ces ligaments et donc on obtient un effet.
Sous opération anesthésie, tout ça.
C'est une opération
pas mal, ouais.
Minime, hein, mais on obtient donc une verge qui paraît plus grande, mais elle n'est pas plus grande. La longueur de la verge
aussi, hein.
est la même, simplement, esthétiquement, elle est dégagée et plus droite. Et donc, il y a 1 à 2 cm de plus. Le problème de ces allongements de verge par section des ligaments, c'est que, en fait, la verge n'est plus dirigeable après.
Elle
suit plus les mouvements du bassin et on fait un peu l'hélicoptère.
Voilà, donc elle est plus longue, mais elle part dans tous les sens. Donc, c'est pas terrible, on a compris. Jimmy ?
Et aussi, il y a une technique que vous nous avez montré un petit peu, une technique manuelle, mécanique ou de torture, ça dépend comment on voit les choses. On appelle ça un peu la technique de la femme girafe. Les gens comprendront l'image. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est l'extenseur de verge. Et en fait, paradoxalement, même si ça paraît tout simple, c'est la seule technique qui allonge vraiment la verge.
On mettra une photo sur europe.fr,
évidemment,
pour voir à quoi ça ressemble.
Non chirurgicale, alors il ne faut pas en faire la promotion sauvage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sur Internet, s'acheter un équipement et le faire soi-même, il faut que ce soit dirigé par un andrologue, mais c'est une technique qui demande quand même quelques efforts de la part du patient, parce qu'il faut s'accrocher la verge sur un extenseur pendant 4 à 6 heures, pendant 6 mois,
tous les jours.
On gagne 1,5 à 2 cm, mais là c'est vraiment de la longueur que l'on gagne. On tire sur
c'est
le tissu
quoi,
qui devient plus long.
Mmh.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il devient plus long sans être plus étroit. Parce que ce qui intéresse les femmes, c'est peu la longueur, mais c'est surtout la circonférence. C'est le diamètre qui compte. Ce qu'on disait en préparant l'émission, toujours, l'essentiel n'est pas de toucher le fond, mais de bien frotter les bords. Et donc, l'intérêt de cet extenseur permet d'augmenter de la longueur sans perdre de diamètre.
C'est donc le plus important pour les femmes. Parce que les femmes, en général, elles pensent quoi d'ailleurs de la taille du pénis?
L'immense majorité des femmes sont gentilles, ou en tout cas, si elles sont sincères, aiment le pénis de leurs hommes. Dans 85% des femmes, dans 85% des femmes trouvent que la taille de la verge de leur partenaire est satisfaisante.
Donc c'est parfait.
Alors qu'un homme sur deux trouve qu'elle est trop petite.
Bon, oui, effectivement, on n'est pas tous d'accord. Ah, merci professeur Desgranchons, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer à parler du pénis dans un instant et on va passer notamment aux problèmes d'érection.
Europe 1.
Dans un instant, on va tout vous dire sur les problèmes d'érection. Vous verrez notamment que dans la majorité des cas, ça cache en fait un problème d'hygiène de vie. Pas besoin de Viagra. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur François Desgranchons, chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors avec vous François, on a déjà fait le tour de la question, si je puis dire, autour de la taille du pénis et des techniques éventuelles quand on souhaite le faire allonger. Mais une autre inquiétude des hommes, c'est qu'elle soit trop molle cette verge hein, finalement. Donc je parle là évidemment des problèmes d'érection.
Voilà, en fait,
c'est
ça. Qu'elle soit pas au garde-à-vous
quand on
veut. On fera
une émission, je pense, spéciale sur les problèmes d'érection. Mais là, qu'est-ce qu'on peut en dire grosso modo? Les problèmes d'érection, ça vient de quoi en général?
Dans l'immense majorité des cas, c'est psycho-affectif. C'est très fréquent, ça peut commencer à l'âge de 20 ans, un rapport sexuel un peu raté donne la peur d'en avoir un autre, on n'ose plus et puis on bande mou. Mais puis après, le pourcentage augmente avec l'âge et donc à peu près c'est un homme sur deux après 50 ans qui a des difficultés, donc qui peut ne pas être sûr à chaque fois d'avoir l'érection quand il veut. La première des choses à faire, d'abord, c'est de vérifier les médicaments que les hommes prennent, parce que les médicaments contre l'hypertension, contre le cholestérol, etc. Provoquent beaucoup de baisses d'érection, on pense aux bêta-bloquants, on pense à...
Il peut y avoir des problèmes d'impuissance avec ces médicaments, effectivement.
Voilà, donc qui baisse ça. Après, il faut regarder si la brioche cache la baguette. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui vient vous voir pour des difficultés d'érection, qui s'assoit en face de vous et qui, par-dessus la ceinture, le ventre dépasse, il faut le regarder dans les yeux, il n'est pas venu pour ça, pas pour entendre ça, mais il faut lui dire, écoutez, il faut perdre du poids, il faut vous acheter une paire de chaussures, il faut marcher, et si vous marchez et perdez du poids, d'abord, vous n'aurez plus ces problèmes de cholestérol, d'hypertension, et en plus, les érections reviendront.
Parfois, on a juste on a des problèmes d'érection parce qu'on est trop gros.
C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et donc, c'est la catastrophe de la sédentarité. On mange trop, il n'y a pas assez de sport. Et ça retentit directement sur les érections.
Parfois, des patients ont l'impression que leur verge est tordue. Alors, bon, on peut dire que normalement, la verge n'est pas droite comme une règle. Mais qu'une verge tordue, ça n'existe pas, hors pathologie particulière.
Alors, il y a deux types de courbures de verge. Il y a celles avec lesquelles on est né. C'est que ce dont vous parliez, les courbures de verge congénitales. C'est-à-dire que la verge, c'est constituée de trois tubes qui sont collés les uns aux autres. Dans un tube qui va finir par le gland, il y a le canal pour laisser passer l'urine. Et les deux autres tubes sont faits pour durcir, pour les érections. Et donc ces tubes, en fait, peuvent se développer de façon asymétrique. Un tube se développe plus petit que l'autre. Donc en érection, ça va courber la verge du côté du plus petit. Ça, c'est les courbures congénitales de verge. Et puis l'autre maladie, qui est très fréquente également, c'est 14 à 15 à 20% des hommes peuvent avoir ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de l'apéronie. C'est en fait les micro-traumatismes de la verge lors des rapports sexuels, quand par exemple, madame bouge, on se cogne un peu sur le pubis, etc.
Bon, là, vous allez faire peur à tous les hommes qui ont des rapports un petit peu...
Ah ouais,
brutaux,
il faut bien viser.
Pas brutaux, mais un peu violents, enfin, je sais pas. Vous avez compris, quoi.
Ces petits traumatismes, en fait, provoquent des petits hématomes sur la paroi de ces tubes qui durcissent, et ces hématomes, en fait, deviennent de la fibrose, ne sont plus extensibles, et là, pareil...
Faut y aller quand même fort, c'est vraiment des traumatismes, c'est pas...
Non, alors il y a les vraies fractures de verge où on entend un craquement et la verge est comme une aubergine après. Là, c'est des petits traumatismes en fait, c'est une hypothèse. Et dans ces cas-là, en fait, il y a des nouveaux traitements avec des enzymes et autres, mais c'est une courbure acquise. Donc il y a la courbure congénitale, un tube qui se développe moins, et la courbure
ça,
acquise,
âge,
c'est le nodule.
Ce syndrome de la péronie,
le nodule, c'est autour de 50 ans, et puis lorsque l'on palpe sa verge, on sent à l'intérieur de la verge un nodule très dur comme de l'os, et c'est autour de ce nodule dur comme de l'os que la verge tourne.
Ça se déforme.
Dur comme de l'os, mais on n'a pas d'os.
Non, Henri IV pensait que c'était un os.
Il disait
jusqu'à 40 ans, j'ai cru que c'était un os. En fait, non, c'est pas un os chez le chien, oui, mais chez l'homme avant, mais peut-être très très longtemps.
D'accord. Et la péronie, vous dites qu'il y a une nouvelle technique, ça s'appelle la collagénase.
La collagénase. Voilà. Alors, c'est une technique encore peu répandue qui se développe, qui, comme d'habitude avec les nouvelles techniques, passe par un engouement fantastique, et puis là, on en revient un petit peu. Le principe, c'est de piquer ce petit nodule dur avec de l'enzyme qui va dissoudre ce nodule.
Donc, on pique dans la verge, à l'endroit où c'est tordu.
Dans la verge, sur le nodule. Et donc, ce sont des injections qu'il faut répéter, 3-4 injections, et on associe parfois un extenseur de verge pour mettre la verge en rectitude, et ça marche, mais ça marche pas chez tout le monde. C'est à peu près un tiers des patients qui voient une amélioration, et l'amélioration n'est que de 30 degrés.
Ça fait mal, ça, cette maladie, d'ailleurs, quand ça se déforme.
Alors, ça
comme
fait
ça,
mal au départ. Ouais. Lorsque la fibrose s'installe, c'est un moment où la verge est douloureuse et les rapports sexuels sont douloureux. En érection, on a mal. Et c'est finalement peut-être le moment où on peut plus... Alors d'abord, il ne faut pas du tout utiliser de collagénase ni d'opération à ce stade-là parce que ce n'est pas encore fixé. Mais c'est là où on peut tenter d'utiliser les antioxydants antifibrotiques comme la vitamine E, bien que l'efficacité par rapport à un placebo soit limite, mais ça marche dans certains cas.
Le problème, c'est le prix, je crois, de cette
nouvelle
technique.
Alors le prix des injections est exorbitant, c'est 850 € l'injection. Et bien sûr, pas remboursé, pour un résultat qui est très moyen. Voilà. C'est toujours à faire dans les mains les plus expérimentées. Il faut avoir une autorisation pour le faire. C'est certains andrologues très expérimentés qui peuvent poser l'indication.
Petite question, coquine, si je puis dire. Est-ce qu'il y a, on termine sur le pénis quand même, toujours, on est sur ce sujet-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen vraiment pour savoir, comme ça, quand on voit un homme directement devant soi, si elle est...
Si elle a un gros kiki, comme disait...
Non, mais parce qu'il y a plein de mythes aussi autour de ça. Est-ce qu'il y a vraiment, ça existe, un moyen? On dit le nez, les mains...
Ce qu'on dit d'un homme qui a des grandes mains et des grands pieds, c'est qu'il porte des grands gants et des grandes chaussettes, en fait. On ne peut pas savoir avant. Il n'y a aucune corrélation entre la taille du nez, l'écart entre les deux...
Tout ça, c'est faux, mesdames, ça sert à rien.
La seule corrélation et qui encore est moyenne, et qui comporte beaucoup d'exceptions, c'est une corrélation avec la corpulence. Plus l'homme est grand, plus la bête est forte.
T'es pas très grand, Jimmy, j'ai remarqué.
Je suis 1m80, je crois que c'est correct, non?
C'est le seul moyen, effectivement, pour savoir.
Mais encore une fois, on a des déceptions, donc ce qui compte, c'est l'amour.
Est-ce qu'il vraiment, bien sûr que c'est l'amour. Et évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, à cause du porno qu'on voit beaucoup, maintenant sur Internet, les jeunes en regardent de plus en plus, vous disiez, est-ce que le nombre de demandes, de questions autour de la taille, autour de du diamètre, il y en a plus en consultation?
Il y en a plus, mais c'est pas forcément à cause des pornos, mais c'est parce que la parole se libère par rapport au début du siècle. On était beaucoup plus pudiques. Et donc, oui, effectivement, il y a plus de consultants.
Jimmy ?
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc il n'y a pas d'os dans la verge. Néanmoins, on peut avoir une fracture de la verge, enfin plutôt des corps fibreux. Oui. On appelle ça aussi le faux pas du coït.
On cogne sur le pubis, ça craque.
On revient sur l'aubergine, encore une fois.
Exactement. Oui, parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a plein de sang. La verge, c'est plein de sang, en fait. C'est du muscle qui se remplit de sang pendant l'érection. C'est ça qui provoque l'aldurcissement. Et lorsque l'albuginé, donc un de ces tubes, se casse, et ben le sang sort sous la peau. Et donc, ça fait immédiatement une grosse aubergine bleue.
Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On n'attend pas.
Alors, il faut opérer. Alors, on met pas de
plâtre. Donc, la fracture
du
pénis, il faut aller aux urgences.
Il faut aller aux urgences. Et on met un point sur le trou, on opère, on fait une incision au regard du trou qu'on a repéré sur l'IRM. Et avec deux points de suture, on referme le tube.
Vous disiez que les demandes, elles n'ont pas forcément augmenté en consultation pour des préoccupations d'hommes, éventuellement sur l'esthétique de leur verge. Mais est-ce que c'est des questions qu'on s'est toujours posées depuis la nuit des temps? C'est la taille de l'organe, etc.
Je ne suis pas suffisamment vieux pour avoir connu la nuit des temps. Non. Mais oui, évidemment, bien sûr que oui. Encore une fois, c'est un souci de normalité. Et puis après, un souci d'esthétisme. Dans les temps antiques, en Grèce, ce qui était le plus beau, c'était d'avoir une petite verge.
Ah bon?
Une grosse verge était considérée comme triviale.
Ça a changé,
c'est les reproducteurs. Ça dépend. dépend des pays, ça dépend des cultures, en fait. Hein. La taille de la verge, c'est peut-être un marqueur de culture, mais ce n'est pas une pensée unique, si je puis dire.
Très bien, merci beaucoup, professeur Desgrandchamps, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, ça y est, hein, on sait tout ce qu'il faut savoir sur le zizi. Effectivement, plus sérieusement, vous avez bien rassuré les inquiets, en fait, dans plus de 80-90%,
les hommes, en
fait, ont un pénis tout à fait normal. Je redonne la taille pour ceux qui ne l'ont pas entendu au début, c'est 13 cm en moyenne pour 80% des hommes, c'est ça?
Entre 2 cm au-dessus, 2 cm en dessous, on a 80% des hommes. 13, c'est la moyenne. La moitié des hommes ont une verge un peu plus grande, jusqu'à 2-3 cm de plus. Et la même chose de l'autre côté.
Et même quand il y a un problème, eh bien, il y a des solutions médicales, hein, vous nous avez expliqué, pour corriger certains défauts ou complexes. Merci encore.
Merci Mélanie.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et cette semaine, on s'est intéressé aux pellicules. Elles gâchent parfois la vie de certains. On vous donnera des conseils pour vous en débarrasser. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des pellicules et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole à vous qui en avez peut-être ou qui avez déjà des solutions pour vous en débarrasser. On écoute son micro-trottoir.
Moi, je suis hyper mal placé pour parler parce que j'ai jamais eu de pellicule à 31 ans.
J'en ai, je sais, en période de stress par exemple. Donc mon conseil, c'est d'éviter les chemises noires.
Ça doit être une dégénérescence de la peau, donc c'est pas sale, hein, les pellicules. Ça doit être juste gênant pour ceux qui en ont.
Non, je crois pas avoir de pellicule. J'ai la racine du cheveu gras et je crois que les pellicules, c'est plutôt déjà pour le cuir chevelu sec.
Je serais plutôt anxieux, enfin, je serais plutôt mal à l'aise d'en avoir. On analyse plutôt ça sur quelque chose de sale, je trouve.
Mais il n'empêche que je suis en train de me dire que j'ai un shampoing anti-pelliculaire.
Juste un shampoing tous les deux jours, spécial cheveux fins.
À part un peu les pellicules de barbe, voilà, étant un homme avec une barbe, c'est vrai que je pense qu'il y a un certain assèchement de la peau, un fait qu'il est moins hydraté avec la barbe, qui fait que du coup, régulièrement, on se retrouve avec des petites pellicules du barbe.
Ah, pellicule de barbe, ça je savais pas que ça existait par contre, c'est pas pareil que les pellicules de cheveux.
Vous avez jamais croisé Mathieu Noël dans les couloirs? Non, je rigole.
Tous les jours, mais il faut le laisser tranquille, le pauvre Mathieu, il arrive juste après Mathieu.
Non, pellicule de barbe, finalement c'est une dermite séborique, donc c'est l'équivalent de pellicule de cheveux, mais c'est une pathologie dermatologique qui est un peu plus sérieuse que les simples pellicules dont on va parler.
Alors les pellicules justement, celles qui sont dans les cheveux, c'est provoqué par quoi?
Alors, c'est provoqué par un champignon dans la plupart des temps. Alors, il y a plein de causes de pellicules différentes, mais on a un champignon qui s'appelle le Pityriasis, qui est un champignon pas très méchant, mais qui finalement perturbe le bon renouvellement des cellules du cuir chevelu. Toutes les cellules finissent par mourir, et sauf que le Pityriasis accélère le décès de ces cellules, et donc on en a beaucoup plus, ça desquame et ça donne les pellicules.
D'accord, parce que le cuir chevelu, finalement, c'est de la peau, donc ça fait comme Exactement. Tout le reste du corps, hein. La peau, il y a des cellules mortes.
Il y a un renouvellement, mais là, qui se fait de façon trop importante à cause de ce petit champignon, et donc forcément, quand les cellules sont détruites, eh ben, on a ces petites pellicules un peu disgracieuses.
Et j'imagine qu'on doit pouvoir s'en débarrasser de ce champignon. On peut avoir d'ailleurs des champignons, des mycoses, autres. Il y a toujours, en général, on dit des antifongiques ou des choses comme ça. Je sais pas. Est-ce que pour les pellicules, quand on a ce champignon, on peut s'en débarrasser avec quoi en général?
Oui, c'est assez simple. Il suffit parfois d'acheter un shampoing anti-pelliculaire en pharmacie ou dans les centres commerciaux. Le mieux quand même, c'est de demander l'avis d'un dermatologue parce qu'il y a différents types de pellicules et donc parfois les simples shampoings vendus dans le commerce ne suffisent pas et parfois vous prescrivez des traitements un peu plus adaptés.
Et si c'est pas justement ces pellicules qui sont dues à ce champignon là dont vous venez de parler, qui est pas grave mais en tout cas qui peut provoquer ces pellicules sèches là, c'est quoi quand c'est pas ce champignon? On a quoi d'autre qui peut arriver qui donne des pellicules?
On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une forme d'eczéma, on appelle ça la dermite séborique. Ça touche les hommes entre 18 et 40 ans, rarement au-delà. C'est assez fréquent et dans ces cas-là, c'est lié à un autre champignon qui lui perturbe aussi le renouvellement.
Il y a plein de champignons sur la tête en fait.
Plein de champignons, on en a un peu partout, c'est pas très agréable, mais bon, c'est la vraie vie. Et ce champignon entraîne de l'inflammation, ça entraîne une desquamation et dans ces cas-là, on a plus une forme d'eczéma.
Et donc, ce n'est pas des pellicules sèches comme on voit d'habitude, c'est des pellicules qui sont plus grasses, hein,
Exactement, qui sont un peu plus grasses et qui, lorsqu'elles tombent, créent une lésion inflammatoire. Et donc, on a un cuir chevelu qui est très très sec. Et puis, on a des croûtes un peu rouges. Et puis, on peut aussi en avoir un peu sur la barbe, on peut en avoir sur la peau. Et donc, ça s'intègre dans une maladie dermatologique
pour lequel, encore une fois, on a des traitements, mais ça différencie des pellicules classiques qu'on connaît.
Des pellicules sèches, donc, qui sont les petits flocons de neige qu'on peut avoir, enfin, c'est pas de la neige, mais qui ressemblent à des flocons de neige, effectivement, sur les épaules. Si j'ai bien compris, il faut distinguer donc les pellicules sèches, des pellicules grasses qui sont dues à un eczéma, par exemple, mais les sèches, ça a l'air un peu moins sérieux, donc c'est moins grave, en fait, finalement.
Oui, c'est moins grave. Les pellicules sèches, globalement, on peut en avoir, et puis ça varie aussi au gré du stress, de la fatigue. Si vous mettez un bonnet, par exemple, et que vous mettez à transpirer énormément, vous avez plus de chances d'avoir ces pellicules sèches. Mais en règle générale, c'est pas très beau, on va pas se mentir, mais finalement...
Comment on fait pour savoir si on a des sèches ou des grasses, justement?
Alors, le sèche, c'est très simple, c'est très moche, mais c'est facile. Vous mettez la main dans les cheveux, vous frottez, et puis s'il y a de la neige qui tombe, alors c'est pas vraiment de la neige, hein, on l'aurait compris, et ben c'est plutôt des sèches.
D'accord.
Si en revanche, vous avez un cuir chevelu, on en a parlé tout à l'heure, très épais, des marques rouges, des lésions un peu suintantes, des croûtes jaunâtres. Donc évidemment que là, on est plutôt dans la pathologie dermatologique. Et là, à ce moment-là, il faut plutôt consulter. Parce que dans ces cas-là, on met un traitement un peu adapté. On donne souvent des antifongiques, un shampoing antipelliculaire, mais avec parfois un peu de cortisone. Et puis parfois, on fait aussi d'autres diagnostics, par exemple du psoriasis, donc qui est aussi une maladie dermatologique, peut aussi toucher les cheveux. Et donc à ce moment-là, encore une fois, on met toute une gamme de traitements. L'essentiel, c'est de dire aux patients, ne vous inquiétez pas, on a des traitements plutôt efficaces et on va du moins agressif au plus agressif. C'est un peu comme les boutons d'acné, on n'est jamais très pressé et en règle générale, on a toujours une solution.
Et un petit conseil pour ceux qui ont les petites pellicules sèches dont on a parlé au début, hein, qui ne sont pas très graves, on évite de mettre trop le sèche-cheveux sur les cheveux parce que ça assèche le cuir chevelu, hein, c'est ça aussi, hein, on ne se sèche pas trop fort.
Ça irrite, ça abrase, c'est un facteur mécanique externe, donc éviter, ce n'est pas terrible.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de virginité et de normalité. Est-ce que c'est réellement un souci de n'avoir jamais eu de rapport sexuel à 25 ou 30 ans? Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous.
Alors aujourd'hui, on parle de normalité avec cette question pour commencer d'Anaïs. Je vous la lis. J'ai 25 ans et je suis encore vierge. Si je trouvais légitime de prendre mon temps jusque-là, je me sens aujourd'hui très en décalage et anormale. Qu'en pensez-vous Catherine? Alors Catherine, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment une normalité en matière de sexualité, en fait, il n'y en a jamais, non, j'ai l'impression?
Alors déjà, il faut se dire que ce qu'on appelle normalité, c'est le plus grand nombre. Mais ça ne veut pas dire que, sorti de ce contexte-là, de ce nombre-là, on n'a pas son droit à expression différente. Donc effectivement, on peut se dire que l'âge moyen d'une première fois est de 17 ans, mais pour autant, on n'est pas en retard parce qu'on en a 25, dans la mesure où pour faire l'amour, il faut d'abord que son corps, tous les développements corporels ne sont pas les mêmes, il faut être en adéquation avec soi, avec son contexte de vie, avec ses urgences, avec ses priorités, et donc tout ça fait des âges différents.
Jimmy ?
Du coup, si l'âge du premier rapport est à 17 ans, donc pas de panique si c'est un peu après ou un peu avant.
Bien sûr.
Mais un peu avant jusqu'où ?
Bon, on peut se dire que c'est à partir de la puberté. Donc, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où le corps devient pubère, c'est un corps qui a tout en place pour faire l'amour et pour faire des bébés. Pour autant, est-ce qu'on fait des bébés dès lors que l'on est pubère ? Non. Est-ce qu'on fait l'amour dès lors que l'on est pubère ? Non, mais parfois oui. En tout cas, on est autour de ce questionnement de fait, parce que le corps est prêt à cela. Maintenant, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Mais encore une fois, deux enfants de 14 ans n'ont pas le même corps. Il y a des enfants qui ont des corps de bébé à 14 ans, et il y a des enfants qui, à 14 ans, ont des corps d'adultes. Donc, nos corps ne nous renvoient pas aux mêmes choses, ne nous renvoient pas au même rendez-vous, ne nous offrent pas les mêmes opportunités dans les mêmes temps que nos voisins et voisines dans la même classe.
Mais si on a 40 ans, là, à l'inverse, c'est l'inverse beaucoup plus tard, mettons 40 ans, on est encore vierge, là, on se dit, il y a peut-être un problème quand même. Non, c'est un peu tard. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas la normalité, il n'y en a pas vraiment, mais 40 ans, c'est tard quand même.
Ça raconte quelque chose, en effet. C'est-à-dire qu'il y a un problème pour la personne parce que, de fait, elle s'est vraiment mise très à la marge de quelque chose, non pas de la société, mais de quelque chose que raconte son corps. C'est-à-dire que j'ai des patientes qui viennent me voir dans ce temps, justement, pour poser la question de leur virginité. Et le fait est qu'elles viennent au moment où elles ont 40 ans, c'est-à-dire au moment où elles sont dans le temps où va se terminer leur fertilité. Donc, c'était une grande entreprise d'évitement, puisque quand même, le meilleur contraceptif, c'est encore de ne pas faire l'amour.
Jimmy ?
Et finalement, Anaïs, donc 25 ans, n'a pas encore eu de rapport. Est-ce que le jour où elle en aura, elle doit le dire à son partenaire que c'est sa première fois ? Ou finalement, pour faire un peu retomber la pression, ne pas le dire ?
Ça dépend d'une personne à une autre, parce que certaines ont besoin que l'autre soit attentif pour justement combattre ou l'accompagner dans le combat contre ses peurs. C'est pas n'importe quelle jeune femme qui retarde. C'est souvent mu par des peurs que se fait ce retard et se fait les préoccupations ailleurs qui passent en amont du passage à l'acte de la sexualité. Ceci étant, arriver comme ça dans une relation en disant « je suis vierge » ou « je te préviens » ou « attention », c'est parfois faire porter très lourdement des choses à un jeune homme qui n'est pas toujours en capacité de ça. C'est, parfois, ça leur fait peur. Ou au contraire, d'autres qui jouent les super-héros en disant « tu vas voir ma beauté, je vais t'amener au 7e ciel », ce qui déjà, c'est augure d'un pas trop grand à faire. Donc, certaines vont en parler parce que leur relation amoureuse sont faites ainsi. Et les couples se construisent là-dessus. D'ailleurs, ce sont souvent des hommes pour qui la sexualité n'est pas non plus ultra importante. Sinon, ils n'auraient jamais accepté de rester longuement dans une relation sans sexualité. Et puis d'autres, au contraire, qui préfèrent le taire et qui avanceront tranquillement quand elles auront gagné de la maturité elles-mêmes.
Je reviens sur ces femmes qui donc attendent, on ne sait pas, le prince charmant ou autre chose, et qui se retrouvent finalement à 40 ans encore vierges pour une raison X ou Y, encore une fois. Mais est-ce que c'est pas quand même ça ne montre pas peut-être un traumatisme ou quelque chose comme ça ? Est-ce qu'à 40 ans, si on est encore vierge, il faut quand même consulter, aller voir quelqu'un pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ?
Oui, enfin, si on a envie de faire l'amour, parce qu'on peut aussi avoir envie d'entrer dans les ordres, et du coup, c'est une bonne occasion. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas l'amour ? Il y a plein de raisons à cela. Ça peut être des traumatismes vécus qui font qu'on a besoin d'éloigner le sujet de la sexualité pour éloigner le désir que l'on aurait parce qu'on s'est senti coupable d'en avoir ou on a cru qu'on en avait, qu'on était coupable de cela. Il peut y avoir des interdits qui sont notamment de sortir de la relation maternelle et donc rester une petite fille pour X raisons. Il peut y avoir aussi des tas de choses autour de la fertilité justement et avec des choses dangereuses, enfin douloureuses comme des mamans qui ont failli mourir parce qu'elles ont mis au monde des enfants, ce qui fait qu'il y a des filles qui ne font pas l'amour pour pas risquer cela.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier, on s'intéressera aux gestes qui sauvent. On sera à la veille de la journée mondiale des premiers secours et on verra qu'il est indispensable d'être tous formés un minimum. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipée sauvage. Je suis sûre qu'ils sont en pleine forme, vous allez voir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. À la normalité au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis posé beaucoup de questions à votre écoute. Restez avec nous, en tout cas l'équipée sauvage arrive avec un invité qui aime la compétition, Denis Brognard, présentateur emblématique de Koh-Lanta, qui couvrira la Coupe du Monde de rugby, figurez-vous, la semaine prochaine pour TF1. Il est notre invité, il va nous aider à départager les meilleurs chroniqueurs d'Europe 1. A tout de suite.
Merci beaucoup Mathieu, bonne émission, restez sur Europe 1.